Aujourd'hui, je reçois Frédéric de la ressourcerie Court-Circuit de Felletin. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir.
Frédéric, aurais-tu un nom que tu pourrais confier à nos auditeurs ?
Un nom de famille ?
Peut-être.
Thomas.
Frédéric Thomas, enchanté Frédéric. Alors, bon, on va parler précisément de la ressourcerie de Court-Circuit, mais je me demandais d'une manière plus générale. Effectivement, comme elle commence à pulliler dans la région Limousine, on commence à le savoir. Mais pour nos auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est, qu'est-ce qu'une ressourcerie ?
Alors, une ressourcerie, c'est un principe qui vient du Québec. Pour faire simple, c'est une association qui a pour objectif de réduire l'importance des déchets. Et pour cela, on va sensibiliser les gens sur les modes de consommation, sur comment trier ces déchets, et puis aussi comment donner une seconde vie, surtout comment donner une seconde vie aux objets. Et tout ça, la vente des objets, ainsi que les actions de sensibilisation, ça nous permet, nous, de salarier du monde. Parce que la plupart des ressourceries, si initialement elles ont commencé avec du bénévolat, aujourd'hui, une grande majorité emploie beaucoup de monde.
Et donc, du coup, à Felletin, il y a à Court-Circuit de nombreux salariés.
Actuellement, nous sommes 8. On est monté jusqu'à 10, mais il a fallu revoir un petit peu la voilure à la baisse parce qu'on a eu quelques difficultés. Enfin, on avait un projet là qui devait voir le jour prochainement, enfin assez rapidement, par rapport à des bâtiments qui étaient propriété de la Comcom. Mais vu les difficultés financières de la Comcom, ça a pris du retard, donc il a fallu revoir un peu les effectifs à la baisse. Enfin, c'est-à-dire qu'on a des collègues qui sont partis, puis on les a pas remplacés. Et c'est aussi pour ça que on veut quand même s'agrandir. Et si on peut pas s'agrandir avec les locaux de la Comcom, on va s'agrandir via notre boutique.
Nous reviendrons là-dessus plus précisément un tout petit peu plus tard, peut-être. Pour revenir sur le premier point, le qu'est-ce qu'une ressourcerie, donc un concept qui vient du Canada. Ça date de quelle décennie à peu près ?
Waouh, la colle. 20 ans peut-être, je sais pas.
D'accord.
Je sais pas. Après, ce que je peux dire de plus par rapport à une ressourcerie, c'est que ça a une dimension sociale, un petit peu comme les Emmaüs, c'est-à-dire qu'on vend des choses à bas prix. Donc c'est accessible à tous, même s'il y a des gens qui... Enfin, ça brasse un large public. Hein. Ça va du brocanteur jusqu'à la personne qui n'a pas de moyens. Voilà. Et ça a une dimension environnementale. Donc c'est ce que j'expliquais, hein, comment réduire les déchets, toutes les actions de sensibilisation auprès des gosses dans les écoles, auprès des usagers, enfin voilà.
Est-ce qu'il y a une sorte de charte ou une sorte de label des ressourceries ?
Mais exactement. Si tu n'as pas les actions de sensibilisation, tu ne peux pas adhérer au réseau national des ressourceries. Donc tu ne t'appelles pas ressourcerie, tu t'appelles que recyclerie.
D'accord. Et ce réseau national, quand est-ce qu'il s'est fédéré ?
D'accord, j'aurais dû réviser avant de venir.
C'est encore une colle. Alors, comme ça, chers auditeurs, vous savez qu'à Radio Bassivière, nous ne transmettons pas nos questions au préalable à nos invités. C'est discutable. Hein. Bon, du coup, quand même, ce réseau existe.
Ouais.
Et du coup, quelle est l'histoire de la ressourcerie de Felletin ? Qui en est à l'origine ? Quand est-ce qu'on s'est dit, à un moment donné, tiens, si on ouvrait une ressourcerie à Felletin ?
Alors, deux personnes en sont à l'origine, c'est Olivier Cagnon et Marie Maisonnier, qui se sont rencontrées pendant un stage de formation chez Pivoine, soit créer son activité ou monter, enfin, penser son projet, un truc comme ça. Et ils avaient tous les deux envie de développer quelque chose. Enfin, ils se sont rencontrés là-bas, hein, donc, et ils se sont retrouvés justement.
Autour d'un même d'un projet.
D'une envie, enfin, d'envie, qui était de travailler autrement. Parce qu'on est en autogestion, donc ils ne voulaient pas un rapport hiérarchisé, axé sur l'environnement et en prise avec le territoire, c'est-à-dire en lien avec les habitants, pas déconnecté du territoire. Et bon, ils avaient entendu parler de ressourcerie et ils ont trouvé ça intéressant. Et ils ont regardé un petit peu là où il y avait des zones blanches. Olivier est parti se former au Monde à l'envers grâce à un dispositif qui s'appelait Fonds de confiance, je crois. Je ne sais pas si ça existe encore.
En tout cas, le Monde à l'envers, il faut rappeler que c'est la ressourcerie des Montiers.
Voilà, donc c'est un peu la grande sœur de Court-Circuit. Et ensuite, ils sont renseignés un petit peu via les réseaux du plateau et autres, savoir là où ça pourrait être intéressant de s'installer. Il y avait une zone blanche sur Rimouski, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de ressourcerie et personne n'y allait, aucune ressource.
Sur Felletin, pardon.
Merci, sur Felletin. Et l'accueil des élus de l'époque a été plutôt chaleureux, donc ça les a encouragés à s'installer là-bas.
Alors, la question suivante, c'était pourquoi à Felletin ? Maintenant, on le sait, une zone blanche, donc, et des élus favorables au projet. Olivier est parti se former au monde à l'envers. Alors, en quoi consiste la formation? Qu'est-ce qu'il y a besoin d'apprendre pour monter une ressourcerie?
Bah après, t'as d'abord la... Enfin, d'abord... T'as une dimension que tu peux pas négliger, c'est la dimension économique. Donc le monde à l'envers, c'est une ressourcerie qui a 15 ou 20 ans. Donc qui a même plutôt 20 ans. Donc tu as un passé, tu vois comment elle s'est développée, quand est-ce qu'elle arrivait à un palier de développement, combien d'emplois tu peux financer. Voilà. Donc ça, tu peux à travers les chiffres qu'ils te donnent, leur compte de résultats annuel, ça tu peux comprendre comment, enfin ce que tu vas vivre et les écueils à éviter. Après, tu as toute la question de comment tu collectes les objets, comment tu les tries, comment tu les mets en vente. Ça, c'est un boulot, on ne se rend pas compte. Hein. On croit que les gens nous apportent des objets et hop, et c'est tout gagné pour nous. Non, 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 c'est énormément de boulot de manutention, de mise en place, savoir faire les bons prix aussi. Voilà.
Enfin, estimation, ouais. Peut-être de restauration aussi. Enfin, de assez restauration, peu. C'est un grand mot, mais...
Assez peu, parce qu'on n'a pas le temps et que... On n'est pas brocanteur, c'est-à-dire qu'on va faire des prix assez bas. Si on commence à vouloir restaurer quelque chose, il faut qu'on arrive à se payer, nous. Et je prends l'exemple d'une machine à laver. Une machine à laver, nous, on la vend 40-50 euros. Un programmateur, vu qu'elles sont programmées pour se casser, un programmateur, ça va te coûter 80 euros. Tu vas passer, mettons, 2 heures pour trouver la panne et la réparer, donc on est à 25 euros de l'heure, ça fait... au final, tu as 180 euros. 180 euros, les gens vont se dire, bon, j'ai plutôt acheté une mauvaise machine à laver, mais neuve, que d'acheter une machine à laver d'occasion, quoi.
Je comprends. On a commencé à parler un peu du fonctionnement de court-circuit. Comment ça se passe et d'où venait cette envie d'autogestion et comment ça se concrétise entre les 8 salariés?
Alors, d'où ça vient? C'est de par la culture politique des personnes qui composent l'équipe, hein, Olivier et Marie, enfin... Bon, Olivier, il aime beaucoup tout ce qui est attrait à la guerre d'Espagne et à l'autogestion. Donc, tu vois, c'est par son parcours militant et ses réflexions personnelles, hein, Marie sans doute aussi. Et après, comment ça se vit? Eh bien, c'est tous les mercredis matin, on a une réunion d'équipe, on est tous autour de la table et on décide ensemble des orientations à prendre, enfin des orientations, attention, hein, des petites choses à voir à court terme, c'est-à-dire pour la semaine, mais aussi des choses. Des fois, on a des réunions de fond, c'est-à-dire que là, vraiment, on pense à un an, à plus. Les orientations de court-circuit. Et chez nous, on est tous sur un pied d'égalité, du point de vue salarial comme des responsabilités. C'est-à-dire que on a un tronc commun. Le tronc commun, c'est il y a des actions que tout le monde fait, la collecte des objets, la mise en rayon et tenir la caisse c'est-à-dire le moment de vente, ça tout le monde le fait. Après, on se répartit un peu les tâches. Il y en a qui vont plutôt être sur les bouquins, d'autres plutôt sur la vaisselle. Enfin, voilà, tu choisis un peu tes objets. Parce que ça demande une petite spécialité, même si c'est des métiers.
Pour estimer, par exemple ou...
Ouais, exactement. Oui, puis même pour. Enfin, je sais pas si tu es déjà venu à court-circuit, mais les gens nous disent que c'est quand même bien achalandé. C'est agréable à voir. Donc ça demande du temps de travail, ça aussi. Et c'est si tu as 3 personnes, enfin si les 8 sont responsables du même rayon, chacun y met sa patte. Au final, ça donne rien. Donc il y a toujours un référent sur le sujet, par sujet, voilà. Après, c'est vrai que sur des sujets comme les discussions avec les partenaires financiers, ben on va être 2-3 2 à être les référents sur le sujet. Mais à chaque fois, on informe l'équipe tous les mercredis, on informe l'équipe et on décide ensemble. Et on n'est que le porte-parole de l'équipe.
Merci pour toutes ces précisions, c'était très clair. Alors, vous êtes 8 salariés, mais Court Circuit, c'est une association.
Oui.
Et il y a des bénévoles.
Ah ouais. Il y a même un CA. On a un CA qui est composé de 6 personnes, enfin de personnes morales et de personnes physiques. Dans les personnes morales, il y a le monde à l'envers. Dans les personnes physiques, il y a des gens du plateau, de Feltin, et même d'ailleurs, hein, parce qu'on a la chance de brasser pas mal de monde. C'est vraiment pas de l'entre-soi. Et puis après, dans les bénévoles, c'est pareil. On a entre 30 et 50 bénévoles. C'est-à-dire que si tu comptes 50 bénévoles, c'est-à-dire que tu vas compter les personnes qui viennent une ou deux fois. Si tu comptes vraiment dans les personnes qui viennent régulièrement, on est plutôt autour de 20-30. Et on a des bénévoles très, très réguliers, quoi. On a des retraités qui viennent toutes les semaines.
J'ai entendu parler d'un électricien pour ma part.
Gilles.
Gilles, donc, qui a refait l'électricité de la boutique, ouais. Qui diagnostique les appareils ménagers. Donc des bénévoles très très investis.
Ah oui, qui nous a même fait des bancs de test pour qu'on puisse tester plus rapidement encore les objets et qui est en train de penser à nos futurs locaux pour développer des bancs de test encore plus élaborés. Parce que c'est un ancien gars, c'est un électricien, mais il a aussi travaillé en bureau d'études, donc il aime bien conceptualiser toutes ces choses-là. Pardon.
Qu'est-ce qu'un banc de test ?
Ah, un banc de test, c'est...
À quoi ça sert ?
Ça sert à tester les objets, voir s'ils sont s'ils sont en tension, si la résistance marche bien, si ça va pas faire disjoncter tu vas les mettre en situation d'utilisation et tu vas vérifier si tous les paramètres sont bons. Et ça peut être aussi tout simple, hein, ça peut être un banc de test pour des ampoules, c'est-à-dire que tu vas visser plusieurs ampoules en même temps et hop, tu vas allumer, tu vas voir laquelle est défectueuse, laquelle est bonne.
Ce qui garantit donc aux clients de court-circuit d'acheter de l'électroménager qui fonctionne et qui ne fera pas sauter les plombs.
Ah oui, alors ça peut arriver des fois, hein, mais de toute façon, il n'y a pas de souci, c'est garanti un mois, vous ramenez votre objet, votre appareil, on vous le rembourse. Mais normalement, c'est vérifié.
Donc il y a cette part de... On a parlé donc de la valorisation des objets qui sont récupérés, on a assez rapidement effleuré le sujet de la collecte. Comment ça se passe, les collectes ?
Alors la collecte, il y a différents types de collectes. Il y a soit les gens nous amènent des choses au hangar, c'est pas négligeable. Il y a des gens qui nous amènent pas mal de choses avant de dépasser la déchetterie, voire même nous amènent des choses qui sont tout à fait propres, nickel, hein, mais ils en ont plus envie et donc voilà, ils nous les donnent. Des fois, tu as des sacrées surprises. C'est-à-dire que tu te retrouves avec des objets qui ont une... Tu es là, ah ouais, quand même, ça a de la valeur. Ils auraient pu très bien le vendre à un brocanteur et se faire des sous, mais ils trouvent que c'est plus important de nous l'apporter à nous. Parce que c'est... Enfin, tu pourrais te dire non, mais ils ont laissé passer ça, ils ne se sont pas rendus compte. Mais non, enfin, des objets comme ça, non, tu sais ce que ça vaut, quoi. Il y a la collecte que l'on pratique chez les gens. C'est-à-dire ce qu'on appelle, nous, les débarras. On peut vider une maison complète. Les gens font appel à nous pour vider une maison complète parce que voilà, ils ont vendu la maison, c'est la maison de mamie là, puis elle est décédée, donc il faut la vider. Ou on peut passer récupérer quelques petits objets, donc on essaie de cadrer, organiser une tournée pour faire sur quelques communes la collecte de quelques objets, enfin de plusieurs objets. C'est de toute taille. Hein. Et ensuite il y a le service des encombrants. Ça c'est la commune, la communauté de communes Creuse-Grand-Sud qui a lancé un marché d'appel d'offres. Pour lequel on a répondu et on a été retenu. On passe sur toutes les communes de la Comcom Creuse Grand Sud et on collecte devant les maisons les objets que les gens ne veulent plus, que eux-mêmes ils ont conditionné, ils ont mis juste devant leur maison. Et ça c'est prévu. On passe au moins une fois par an par commune, sauf cette année, mais j'expliquerai pourquoi. La commune informe ses habitants que tel jour, c'est un lundi, hein, tel jour. Court-circuit à passer. Donc, si on veut qu'on s'arrête, s'ils veulent qu'on s'arrête devant chez eux, il faut s'inscrire à la mairie, dire quels types d'objets ils vont mettre aux encombrants. Et nous, on a la liste et on fait notre tournée comme ça. Un peu comme le boulanger, il passe vendre son pain, mais nous, on va plutôt collecter et on s'arrête devant les maisons. Voilà, discute un peu avec les gens. Puis...
La grande tournée de court-circuit voilà. Qui n'aura pas lieu cette année. On saura pourquoi un tout petit peu plus tard. Le troisième volet dont on a pas trop parlé, c'est le volet éducatif ou le volet, oui, si, de sensibilisation. Oui. Comment est-ce qu'il s'articule à court-circuit ?
Alors, on réalise avec d'autres assos du plateau, notamment Énergie pour Demain, oui, la Cité des Insectes, le Monde à l'envers, et puis j'en oublie d'autres, des copains. On intervient dans les classes parcs, c'est-à-dire qu'on a répondu ensemble à un marché qui a été lancé par le PNR de Mille Vaches sur... la sensibilisation, enfin sur tout ce qui est environnemental. Et on a répondu, on a obtenu ce marché, et donc on intervient dans des classes qui ont souhaité bénéficier du dispositif Classe Parc. Après, on a aussi des interventions que l'on réalise dans le cadre de prestations qui nous sont demandées par, mettons, la médiathèque de Feltin ou d'autres comme ça. On organise aussi nous-mêmes des ateliers, ce qu'on appelle les ateliers partagés. C'est un samedi par mois, ou même peut-être plus fréquemment encore, des ateliers thématiques où on invite les gens à venir avec des objets, on les répare ensemble. Tu avais le café réparation qui était organisé à une époque par... qui tient encore, c'est Eric du Fab Lab qui bosse avec nous sur ça et qui est vachement pointu, donc c'est lui un peu notre référence sur le sujet. On a un bénévole, un monsieur qui a plus de 80 ans, qui est un ancien tailleur pour dames et qui prend un grand plaisir à animer les cafés couture, et ça marche du tonnerre parce que le papy, il a une putain de vista, enfin, il est génial quoi.
Du bagou.
Voilà, et puis même il est charmant et il sait beaucoup de choses. On a aussi un monsieur qui est très pointu sur tout ce qui est vieux outils, un peu rémouleur, tu vois. Il anime les ateliers fabrication de manches d'outils et puis réparation des outils du jardin. On a aussi des ateliers réparation vélo, enfin tout plein de choses.
Et là, du coup, ce sont des ateliers où les bénévoles sont... Les bénévoles volontaires, évidemment, sont largement mis à contribution et du coup, leur savoir-faire même se trouve valorisé.
Ouais.
Plus que les, en même temps que les objets à court-circuit.
Ah, c'est surtout les personnes. Hein. De toute façon, les court-circuits, c'est surtout une histoire de personnes. Hein. Après, les objets. De toute façon, il n'y aurait pas les objets, on aurait fait autre chose. Mais...
Est-ce que tu as, toi, pour ta part, une spécialité au sein de l'asso ou...
C'est plutôt moi qui vais aller chercher les sous pour des gros films et des gros projets, quoi. Par mon ancien boulot, je suis plus là-dedans. Après, je m'occupe.
C'était quoi cet ancien travail ?
Je travaillais à De Fil en Réseau. Et sinon, je m'occupe un peu des livres avec Olivier. Et j'ai un rayon. Attention, j'ai le rayon bibelot. C'est mon rayon.
Le magique rayon bibelot.
L'art mineur de la vaisselle.
C'est l'art mineur de la vaisselle qui peut devenir un art majeur de l'art tout court.
Voilà.
En vérité.
On s'en moque, mais j'y tiens, je m'y applique, j'y passe du temps, mais c'est un beau rayon.
C'est un rayon qui pourrait être enrichi peut-être avec, je ne sais pas, des... Les bibelots, c'est toujours des objets qui portent beaucoup d'histoire, de la mémoire, ou alors qui font travailler l'imagination.
Ouais.
Ça pourrait être assez marrant de faire un projet autour de ce rayon bibelot, de récolter les histoires de ces bibelots ou les histoires imaginées de ces bibelots.
Non, mais tu dis ça, mais souvent, quand on ne sait pas, c'est souvent les clients qui nous disent ce que c'est, hein.
À quoi sert le bibelot ou alors, quel est le bibelot
ou enfin le bibelot, parce que des fois il y a des choses, c'est simple, les collègues quand ils veulent pas un truc ou quand ils savent pas ce que c'est, ils me mettent ça dans la caisse bibelot, donc je suis obligé de me débrouiller avec.
Le fourre-tout de court-circuit, les bibelots. Est-ce que tu aurais une petite anecdote autour d'un bibelot mystérieux comme ça?
Pas tout de suite.
Pour un peu plus tard, peut-être pour finir avec une note joyeuse à la fin de l'émission. Qui sait, on en arrive à la question qui motive cette rencontre aujourd'hui, qui est un peu pour le coup, comment vit l'association ? Et là, on va parler en termes plutôt financiers.
Alors, l'association vit plutôt bien, humainement elle vit bien, financièrement elle vit pas trop mal, on s'autofinance à plus de 80%. Après, comme la plupart des assos du Limousin, on s'attend à avoir la fin des aides à l'emploi, notamment de l'État sur tout ce qui est CICE, et puis après, les emplois associatifs.
Et ça risque d'être...
On voit qu'ils sont en train de serrer la vis à fond. C'est simple, hein, dans les structures où il y a un changement de personne sur le poste qui est aidé, ils sont en train de dire maintenant, c'est plus qu'un an. C'est-à-dire que la convention qu'ils ont signée avec les structures jusqu'en 2020, c'est un prétexte pour eux pour la réduire à 2018. Donc tu sens qu'ils veulent faire partir ça, enfin ils veulent que ça se disparaisse. Donc moi je pense qu'il serait peut-être pas mal, moi c'est pas court-circuit, hein, c'est moi, hein. Je pense qu'il serait pas mal d'établir un rapport de force, au moins faire entendre notre voix du côté de Bordeaux, voire peut-être même aller se promener là-bas. Hein. Après, et là je reprends la casquette court-circuit, nous ce qu'on a envie de faire c'est... tendre vers une autonomie complète par rapport au financement, par rapport aux aides à l'emploi. C'est arrivé à 100% d'autofinancement. Pour ça, il faut qu'on augmente notre surface de vente, il faut qu'on augmente notre chiffre d'affaires, et puis voilà, donc augmenter, ça, nous ça passe par la surface de vente, et c'est pour ça qu'on va augmenter la taille de la boutique.
Alors, on n'a pas reprécisé pour les non-feltinois ou ceux qui ne fréquentent pas court-circuit, que court-circuit à Feltin a deux lieux, la boutique en centre-ville et le hangar un tout petit peu excentré pour les plus gros objets et le tri.
Voilà, le hangar est en route de Vallière, c'est à côté de l'équipement ou du boulodrome, comme on veut. Donc le hangar, l'idée, ça serait quand même qu'on déménage dans quelques temps.
Alors,
je reviens sur la boutique, c'est ça ?
Ah non, là c'était juste pour faire une toute petite pause quand même, pour signaler à tous nos auditeurs, je le sais parce que j'ai des connaissances qui ont... parfois fait du bénévolat à court-circuit ou qui y travaille, je sais de sources sûres que ce hangar est relativement impraticable l'hiver et donc il faut féliciter tous les salariés de court-circuit pour leur courage de travailler dans des conditions assez dures quand même.
Ouais, c'est tout à fait vrai. Ouais.
Et donc il y a la boutique aussi qui est beaucoup plus cosy.
Qu'on a essayé de rendre plus cosy, en effet. Et on voudrait encore qu'elle soit encore plus sympa. C'est-à-dire qu'on voudrait l'agrandir à l'étage au-dessus pour avoir plus de place. D'une part, pour que les gens puissent se déplacer plus facilement dans les rayons, que nous, on mette un peu mieux en valeur les objets, qu'on en mette aussi plus, voire même qu'on ait un espace où les gens puissent se poser. On a des papis, quand il n'y a pas trop de monde, le samedi après-midi, ou des mamies, hein, ils viennent se poser, on discute, on tchatche. Ils vont chercher un petit chocolat chaud ou un petit café dans le bar à côté, ils ramènent ça, et puis et on a envie de développer ça. On a envie d'avoir peut-être une table basse, deux, trois chaises, que les gens ils puissent prendre un bouquin, le bouquiner avant de l'acheter ou même le reposer après. C'est pas le problème, ça. Mais que ça soit... On se rend compte que c'est aussi un lieu de sociabilité, si c'est pas un gros mot que j'utilise, mais bon. C'est-à-dire que contrairement à un supermarché où tu rentres et tout est fait pour que tu ressortes vite fait en ayant acheté, chez nous... tu peux rentrer, tu peux passer l'après-midi et tu repars en ayant dépensé 50 centimes, rien du tout, c'est pas un problème. Voilà. Et il y a des gens, ils viennent vraiment pour rencontrer d'autres personnes. Enfin, on a plein de clients récurrents qui viennent à chaque fois qu'on est ouvert et qui vont acheter pour 30 centimes de bibelots ou d'autres choses. Hein, mais ça leur fait leur sortie.
Et, parce qu'on parlait des bibelots tout à l'heure, mais effectivement, il y a un petit côté muséal dans l'agencement de la boutique. Il y a des choses à voir, il y a des choses à découvrir, ouais. De quoi fouiner et des sujets de conversation à naître autour de ça.
Tout à fait, ouais.
Pardon, je t'ai coupé.
Je t'en prie. On a sauté sur l'opportunité qui s'est présentée à nous. Là, c'était que les propriétaires voulaient vendre le bâtiment où se trouve la boutique. On leur a proposé un prix plus bas que ce qu'ils en voulaient. Bon, ils ont accepté ça. Et là, on s'est dit, bon, maintenant, comment on fait ? Et parce qu'on ne pensait pas qu'ils accepteraient si vite. Ils ont accepté le lendemain. Moi, j'étais parti sur il y a 3-4 mois de négociation, là, j'aurai le temps de me retourner. Non, et le lendemain, ils m'appellent. Ah ouais, c'est bon. Ah ok, d'accord. J'appelle les copains de l'Arban. Je dis, bon, j'ai un truc à acheter.
Alors, les copains de l'Arban, est-ce qu'on peut repréciser qui sont ces copains ?
Alors, c'est la Société Coopérative Intérêt Collectif de l'Arban, qui est basée à Faux-la-Montagne, et dont l'objet, c'est un des objets, hein, c'est justement de travailler sur la question de l'immobilier. Au départ, c'était pour que les gens se logent plus facilement et sans être dans des passoires thermiques, enfin des trucs inconfortables. Mais avec le projet qu'ils ont mené sur Jansiou avec la Renouée, ça a dépassé ce cadre-là. Maintenant, c'est parti aussi sur des activités humaines, quoi. Enfin, qui a un cadre économique ou pas, quoi. Et donc, on s'est dit que ce serait intéressant de faire la même chose avec court-circuit. Nous, on n'a pas voulu être propriétaire parce que ça nous On aurait pu, mais on s'est dit, c'est bien si ça reste dans le bien commun. Quoi. Et travailler avec l'Arban, c'est aussi... Enfin, si l'Arban est propriétaire, c'est être un peu dans cet esprit-là. Quoi. Et c'est-à-dire que si un jour court-circuit disparaît ou autre, ça restera toujours propriété de la collectivité, on va dire.
Du fait que le propriétaire est l'Arban, comme par exemple à la Renouée.
Exactement. Et ensuite, l'intérêt, c'était aussi que l'Arban a un peu de capital social qui va investir dans ce projet-là. Et ça nous permet, nous, de lancer une souscription où on invite les gens à prendre des parts sociales dans l'Arban pour augmenter le capital. Et ces parts sociales sont uniquement dédiées au projet de court-circuit. Ou alors, si les gens ne veulent pas prendre de parts sociales dans l'Arban, ils peuvent faire un don au fonds de dotation La Solidaire. Alors, un fonds de dotation, c'est une micro-fondation. C'est comme une toute petite fondation, mais territorialisée, enfin locale. Et voilà. Donc, c'est... On invite les gens à faire ça.
Alors, on aurait peut-être dû inviter des représentants de l'Arban et ou de la Solidaire. Qu'est-ce que ça veut dire, prendre une part sociale dans l'Arban ?
Alors, prendre une part sociale dans l'Arban, ça veut dire déjà augmenter son capital, donc lui permettre d'investir. Ensuite, en termes de responsabilité ou d'engagement, ce qu'il y a en plus, c'est... Ça peut être très très léger, hein, c'est-à-dire qu'il y a 4 collèges dans l'Arban, il y a notamment le collège des investisseurs solidaires. C'est-à-dire que la plupart des gens, d'ailleurs, vont dans ce collège-là. C'est-à-dire que tu tu as envie de soutenir un projet, tu prends une part ou plusieurs parts sociales.
C'est combien ? La part est fixe ?
La part est à 150 euros. Et puis, voilà, pour ceux qui veulent défiscaliser, ils peuvent déduire 18% du montant des parts qu'ils ont contractées, ils peuvent déduire de leurs impôts, donc 18%, dès lors qu'ils laissent la part sociale 5 ans dans leur banque. Bon.
Alors du coup, on met une part sociale et on peut la retirer à un moment donné.
Voilà. Mais c'est bien de le signaler à leur banque parce que sinon, ça nous permet d'avoir une visibilité sur son capital. Mmh. Donc, il y a différents collèges. Il y a le collège des collectivités, il y a le collège des acteurs de l'éco-construction, il y a le collège des bénéficiaires et puis le collège des investisseurs solidaires. La plupart des gens sont donc investisseurs solidaires. C'est-à-dire qu'une fois par an, pour l'Assemblée générale, ils reçoivent un compte-rendu d'activité, enfin, ils sont au courant de ce qui se passe à leur banque. Et puis, ils viennent à l'Assemblée Générale s'ils veulent ou pas.
D'accord. Donc, c'est... voilà, vous avez un peu trop d'argent qui traîne. Vous pouvez en faire profiter la collectivité par le biais de l'arbon.
Oui, c'est ça.
C'est basiquement le principe. Et la solidaire, alors j'ai déjà oublié...
Alors, c'est une micro-fondation, c'est une petite fondation locale. Et tu donnes... le mieux, c'est d'aller sur notre blog... Enfin, ou sur notre site, voilà, tapez court-circuit sur internet, ressources sur court-circuit, vous allez arriver sur notre site internet où vous pouvez télécharger le bon de souscription, soit à la solidaire, soit à l'arbon, vous prenez ce que vous voulez. Et dessus, vous cochez, vous renseignez ce qu'il faut me renseigner, c'est-à-dire nom, prénom, tout ça. Et vous pouvez dire aussi, si vous voulez recevoir un reçu fiscal pour déduire de vos impôts, par exemple, si vous faites un don à la solidaire, ben, vous pouvez en déduire, je crois que c'est 60-70% de vos impôts. Voilà.
Ce qui est quand même très conséquent pour ceux qui payent des impôts. Vous avez lancé cet appel à souscription il y a combien de temps ?
Alors, on l'a lancé courant mai, mais vu qu'on n'est pas des pros de la com, ça restait assez anonyme. Et aujourd'hui, bon, on se dit qu'il faut quand même communiquer plus largement, donc c'est aussi pour ça que je suis là ce soir, parce qu'on voudrait atteindre 60 000 euros de souscription. Pour l'instant, on est à 14 000. On se dit que... Ah oui, alors il y a pas mal de gens qu'on croise qui nous disent « Oh ouais, c'est bien ce que vous faites, on va vous soutenir, on va vous envoyer un... Enfin, on va participer. » Comment ça, on ne sait pas, mais... Voilà, ils nous disent « On va participer. » Sauf que j'ai l'impression qu'ils attendent le dernier moment. Et je leur dis, si ce soir ils m'écoutent, les gens, c'est maintenant qu'il faut le faire, parce que moi je flippe. Alors, tous les matins, j'y vais, ça fait 2 semaines que je vais voir la boîte à lettres. Il n'y a rien, à part les factures dans la boîte. Le facteur, il n'y a rien d'autre. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez aider. C'est... Prenez votre temps, hein, mais si vous pouvez le faire maintenant, ce serait mieux, quoi.
Prenez votre temps, mais pas trop. Au pire, si vous avez acheté trop de parts, vous pourrez toujours... si vous avez acheté trop de parts, si vous avez donné trop... Non, si vous avez... on achète une part...
Tu achètes une part sociale et tu fais un don.
Et donc, si jamais vous avez acheté trop de parts, vous pourrez toujours la reprendre quand vous y penserez. Par exemple, quoi. Là, le montant de l'achat... du bâtiment et les travaux, ça représente 150 000 euros et mine de rien, vous ne demandez que 60 000 euros, ça veut dire que la ressourcerie apporte quand même la majeure partie des fonds.
Alors, quand on dit 150 000, si tu comptes notre temps de travail, les investissements que nous on va faire en plus à côté, on est plutôt à 160 000. Mais on a indiqué 152 000 sur le bulletin. L'Arban va contracter un emprunt de 65 000 euros que nous on va rembourser via des loyers. Alors comment on a fait d'ailleurs ? On va reprendre le truc dans le bon sens, hein. C'est quand on a contacté l'équipe de l'Arban, on a vu avec eux quel loyer on pouvait mettre, ce qui était raisonnable pour nous sans nous mettre la tête sous l'eau. Et à partir de là, on a tricoté un plan de financement en disant ben voilà, un loyer comme ça, ça peut donner tel emprunt. Nous, l'Arban, on peut mettre tant. On a dit, nous, court-circuit, on peut mettre tant sur la table. Donc, il manque 60 000. Voilà. D'où l'appel à souscription pour 60 000. Et ce que je voulais dire juste, c'est qu'il y a des gens qui pensent que si on n'arrive pas à 60 000, on arrêtera le projet. Non, non, non. Si on n'arrive pas à 60 000, on fera quand même le projet. On le fera plus petit, mais on le fera quand même. Mais l'idée, c'est que si on arrive à 60 000, on est confort, on fait un beau bâtiment. Sinon, ben, on sera un peu route, comme ça l'est actuellement, et ça sera. Peut-être que ça durera moins longtemps, quoi. Mais on a quand même, nous il faut qu'on avance, hein. faut que ça se fasse, quoi.
Court-circuit, une association, non je vais pas la faire, qui bouge. Et donc pour le moment vous êtes court-circuit. Est-ce que court-circuit loue le hangar et la boutique?
Alors, on loue la boutique au propriétaire actuel, qui normalement est propriétaire jusqu'au 5 septembre, hein, parce qu'on a signé un compromis de vente, il arrive à terme le 5 septembre. Et le hangar, on le loue à la mairie de Feltin aussi. Ouais. Et l'idée, c'est que dans le prochain hangar, on soit propriétaire, du propriétaire actuel qui est la Comcom, ou peut-être d'un autre, on verra, et que la boutique, on la loue, donc, comme tu l'as compris, à Larban. On restera locataire des deux bâtiments.
Ce qui me fait revenir à un sujet qu'on a évincé tout à l'heure, qui est, mais pourquoi donc n'y aura-t-il pas de tournée dans les villages de la Comcom Creuse Grand Sud cette année ?
Alors, pas dans tous. On s'est entendu avec la Comcom pour ne faire que la moitié du travail, parce qu'elle doit faire des économies drastiques. Et voilà, nous, on a accepté de... On n'était pas forcé, hein, parce que c'est un marché public. Voilà, c'est pas une subvention. Hein. C'est un marché public, quand tu as signé un contrat, tu t'y tiens. Hein. Mmh. Mais on a accepté de diviser par deux nos prestations pour que la Comcom puisse en sortir. C'est-à-dire qu'on n'en fera que la moitié du travail cette année. La moitié des communes qui seront collectées cette année, l'autre moitié l'année prochaine.
D'accord.
On espère bien que la Comcom va se refaire un peu une santé financière pour pouvoir reprendre ce travail pleinement. C'est pas tant pour nous, c'est pas tant pour notre argent. Hein. C'est aussi parce que depuis qu'il y a la collecte des encombrants par court-circuit, il y a moins de salons de jardin en plastique qui brûlent au fond du jardin, les gens font moins brûler et les gens balancent moins dans les bois. Donc il y a moins de décharges sauvages. Et ça, c'est les élus même qui nous le disent.
Et ça, c'est un gain énorme en termes écologiques et peut-être aussi en termes de... Alors, je ne sais pas quelle est la politique par rapport aux décharges sauvages. Si les communautés de communes ou les communes ont le devoir de se débarrasser des décharges sauvages ou non,
Ça, je ne saurais pas te dire. Par contre, pour ce qui concerne les déchets, tu n'as pas le droit de les brûler. Parce que des fois, les gens nous disent « Ah ouais, vous voulez pas venir chercher mon buffet là, qui est tout cassé ? Eh bien, je vais mettre le feu dedans. Je vais le faire brûler au fond du jardin. » Mais on ne le rappelle pas la loi, parce que nous, on n'est pas flics, mais... Faut quand même savoir que brûler des déchets, ça produit de la dioxine, vous empoisonnez votre sol, et si vous êtes à côté, vous empoisonnez vous aussi. Hein.
Alors, comment faire quand on est un petit peu pyromane et qu'on se restreint à quelques feux rares, en se disant, tiens, c'est une chaise, c'est du bois, je peux bien la brûler ?
Alors, si c'est un bois qui n'est pas traité, oui, tu peux, même, voilà, mais si c'est un bois qui est traité, c'est pas bon, mais c'est surtout... C'est surtout quand tu brûles du plastique, des pneus, des tes ordures ménagères. Là, c'est le pire. C'est là où tu as la dioxine.
Ah. Et ça, c'était une pratique très ancrée.
Ah oui, mais en 2015, il y a la Comcom qui nous a demandé de faire de la sensibilisation, de faire du porte-à-porte sur l'ancienne Comcom du plateau de Gensioux, qui a intégré justement la Comcom Creuse Grand Sud, d'aller faire du porte-à-porte pour sensibiliser les gens au tri. Ce qu'on appelait les sacs jaunes. Mmh. Voilà. Donc expliquer aux gens comment trier et puis mettre les bons objets dans les sacs jaunes. Et il y a plein de gens qui nous disaient « Ah ouais, mais moi je brûle. » Mais de bonne foi, tu vois, ils pensaient que ça
faisait... Pas de problème.
Voilà, c'était comme brûler sa taille de haie ou autre. Alors que non, ça cause vraiment des problèmes. Mais je pense que les gens sont foncièrement bons. C'est-à-dire qu'une fois que tu leur as expliqué, après, ils font l'effort de trier. Sauf quelques-uns qui, bon, c'est comme partout, hein, qui nous font un petit chantage. Là, si tu viens pas chercher mon meuble, ben mon canapé, j'y mets le feu. Ben, écoute.
C'est particulier, quand même. Mmh. Bon, c'est pas... J'allais revenir peut-être à la souscription. Donc, c'est jusqu'au 31 juillet. Pour le moment, il y a 14 000 euros qui ont été récoltés. Il en manque donc 46 000. Voilà, il vous reste un petit peu plus d'un mois. Et c'est très important parce que, effectivement, faire de la ressourcerie court-circuit de la boutique dans le centre de ville de Feltin, un endroit qui puisse devenir quand même un lieu, encore plus un lieu de vie que ce que c'est aujourd'hui, ce serait quand même pas mal.
Ouais. Et puis, c'est un lieu où on accueille pas mal de monde aussi, si j'ai deux minutes encore. On accueille pas mal de monde, on fait partie du réseau repas, donc chaque année on accueille 2-3 compagnons. On est en lien aussi avec la PJJ, la protection de la jeunesse judiciaire de la jeunesse, qui nous envoie de temps à autre des gosses qui ont fait des conneries. Voilà.
Depuis combien de temps ?
Depuis 2 ans. Donc on a accueilli des petits gars, puis voilà, ils étaient tout contents de bricoler les vélos ou bricoler un peu ta route, enfin, ou même faire de la vaisselle avec nous, hein, nettoyer la vaisselle. Voilà, ça, je trouve que c'est, pour eux, c'est plus sympa que d'aller nettoyer un mur plein de graffiti, je pense. Hein. Se retrouver dans une équipe en plus en autogestion, où il n'y a pas le chef, et puis on est tous sur un pied d'égalité, et bah, eux aussi, donc. Après, on accueille aussi, on a un partenariat, enfin partenariat, on est en lien avec, avec Chantal sur le plateau, là, Chantal Le Breton, qui accueille des jeunes en séjour de rupture. Des fois, elle nous propose d'accueillir quelqu'un, et puis on l'accueille une semaine ou deux. Ouais.
C'est plutôt des visites ou des séjours courts, du coup, quand vous accueillez comme ça
Bah, les compagnons, ça dure un mois. Après, les gosses de la PJJ, c'est plutôt une semaine, ouais, deux, trois jours, une semaine. Et pour les enfants en séjour de rupture, c'est pareil, ça va être plutôt court.
Et avec les gosses de la PJJ, c'est, comment dire ça, pour eux, c'est l'équivalent de travaux d'intérêt généraux,
ouais, ouais.
Qui leur permettent du coup de voir peut-être un horizon autre, effectivement.
Ah ouais, tout à fait. Et puis après, on a un partenariat avec l'Institut médico-éducatif de Felletin, et tous les mercredis, bah, tu as une petite équipe de l'IME qui vient bricoler avec nous. Il y a un animateur et puis 5-6 gamins qui viennent bricoler, faire ce qu'il y a à faire.
Alors, bah, dans ce cadre-là, on reste dans le volet éducatif. Est-ce qu'on entre un peu dans un volet social aussi, ou est-ce que le volet social, au final, il est là au quotidien, parce que du fait des gens qui sont là?
Mais il est là au quotidien. Hein. Et on le met pas. Enfin, moi, je le mets en avant dans les dossiers pour les fondations, hein, mais sinon, on s'en fout, quoi. Enfin,
c'est tout naturel. ça fait. Comment est venue cette idée de s'associer à la protection judiciaire de la jeunesse?
Je crois que c'est elle qui nous a demandé. Il me semble que c'est elle. Comme les AS, les assistantes sociales, nous ont pensé à nous pour permettre à des familles, notamment des familles monoparentales, un petit peu dans l'urgence, tu vois, qui étaient un peu un foyer pas toujours facile, de se meubler vite fait, d'acheter un peu de vaisselle, voilà, créer un petit endroit un peu sympa, enfin sympa, voilà. C'est de temps à autre, on a les AS du département qui nous envoient du monde.
Ça, c'était la partie émergée de l'iceberg.
Ouais. De même, maintenant, elles nous ont demandé aussi de faire des déménagements. C'est-à-dire qu'on file un coup de main à des gens qui n'ont pas les moyens de déménager, qui quittent un appartement pour un autre. Et j'ai des collègues qui s'occupent de ça. Nous, on a le matos, on a le savoir-faire, et on implique les gens dans le déménagement.
De quelle façon?
On leur dit, on vous pose les caisses le vendredi, mettons. Vous mettez tout, conditionnez tout. Et puis le lundi, on vient avec vous, on charge le poids lourd, s'il faut, ou le fourgon, enfin ce qui est chargé. Et on déménage vos meubles aux caisses, et puis on remet tout ça en ordre dans le nouveau logement. Quoi.
On n'imagine pas tout ce que peut faire une ressourcerie. Vous êtes donc plein de ressources.
Mais tu vois, ça c'est important, ça. On est d'autant plus libre pour y penser, pour développer de nouvelles actions, tout ça, qu'on est, moins pris par les objets. C'est-à-dire qu'on a. Je reviens sur les locaux, quoi. Quand on aura des locaux vraiment adaptés, on sera un peu moins en galère à bouger trois fois une armoire avant de lui trouver la bonne place. Où on ne va pas lutter contre le froid, on ne va pas lutter aussi contre la surchauffe l'été. On aura plus de temps disponible et plus d'énergie à consacrer à ça plutôt qu'à lutter contre la fatigue.
Et ça, on fera certainement. Oui. Ça en révélera donc tout le potentiel. Est-ce que, entre-temps, tu as dit beaucoup de choses intéressantes, je me demandais quand même si on pourrait pas revenir à une anecdote bibelot, si jamais il y en a une qui te traverse l'esprit comme ça.
Ouais. Je suis désolé, je sèche.
Mais non, mais c'est normal. C'est très très difficile. Chers auditeurs, nous sommes en direct et avoir une anecdote comme ça sur commande, c'est quelque chose de compliqué. Bah, Frédéric, tu pourras toujours nous laisser un message sur le répondeur de Radio Vassilière pour nous donner ton anecdote. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter ?
Eh bien, court-circuit, ouais, comme on le disait tout à l'heure, c'est un bon nombre de bénévoles. Et que ça, c'est, ça amène beaucoup de fraîcheur aussi. Parce que des fois, nous, on est un peu dans le dur. Physiquement, c'est un métier qui est dur. Et je vois d'autres ressourceries qui n'ont pas du bénévolat comme nous, que ce soit les collègues des Moutiers ou d'ailleurs. Et ils sont, j'ai l'impression que des fois, ils se traînent un peu leur fatigue comme un boulet. Et que nous, quand on a des bénévoles sur un débarras ou sur l'achalandage, c'est-à-dire quand on met les objets en vente, en rayon, ou alors même pour les tester, tout ça, ils viennent avec leur bonne humeur, parce qu'ils sont contents de venir, et ils transmettent leur bonne humeur. Et nous, ça, c'est un peu un bol d'air, c'est un petit coup de fraîcheur, quoi. Et ça nous donne un boost. Franchement, on a fait des débarras où on rigole bien, ça met du boost. Donc, je contacte de temps à autre des gens sur le plateau pour qu'ils viennent nous donner des coups de main, parce que je les connais, je sais que ça les intéresse. Mais s'il y a d'autres personnes qui veulent venir, même de fait le temps, il y a d'ailleurs. Hein. Enfin, toute personne est le bienvenu, quoi.
Les débarras, c'est tous les combien ?
Ah ben ça dépend des demandes. On en fait 100 à 120 par an. Et des gros débarras, c'est-à-dire quand tu vis d'une maison, ça peut durer une journée comme ça peut durer 3 jours. Cette année, on en est à 10 déjà, mais en général, on en fait 6-7 par an. Mais cette année, on sent vraiment qu'on travaille plus encore en termes de débarras que les autres années.
Ben, je peux vous inviter à laisser, encore une fois, des messages téléphoniques sur le répondeur de Radio Vassivière pour des appels à participation, pour vider des débarras. Peut-être que de nouveaux bénévoles se manifesteront. On parlait tout à l'heure de la fin des emplois d'avenir. Et là, on vient d'évoquer quand même la fatigue qu'il peut y avoir quand on... dans une équipe salariée, dans une association, que en même temps les bénévoles sont souvent heureux de venir. Enfin, c'était un petit truc, voilà, pour dire que c'est quand même très important ce que fédère la vie associative. C'est aussi très important ce que fédère le fait qu'il y a des bénévoles dans la rencontre, dans des moments. Et donc, bah, sans association, il n'y a pas de bénévoles. Et
je trouve que le modèle économique de court-circuit, c'est un peu un modèle bien adapté à un milieu rural où tu as peu d'habitants, des gens qui sont pauvres, enfin qui n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, parce que bon, nous, on est tous au SMIC. Hein. Le salaire moyen, c'est 900 euros à court-circuit parce qu'on est tous à 80%. Donc voilà, c'est aussi pour ça. Si les gens donnent, il ne faut pas croire que c'est nous qu'on va partir en vacances avec. Hein. Ça sert vraiment à la ressourcerie. Hein. C'est une asso, hein, d'ailleurs, c'est pas une entreprise.
Oui, on
c'est
l'a...
pas but lucratif. Hein. Je trouve que ce qui tourne pas mal, c'est qu'on s'autofinance à 80%, mais dans ces 80%, il y a quand même un équivalent temps plein de bénévolat, tu vois. C'est que on marche sur trois pattes là, mais c'est ce triptyque qui fonctionne plutôt bien et qui me semble bien adapté à une région comme un secteur comme le nôtre, où tu as bénévolat, prestations, vente d'objets. Et puis, subvention publique. On rend un service à la population, on rend un service à la collectivité, là où le service marchand ne va pas parce que ce n'est pas rentable. Et si on n'était pas là, eh bien, ça coûterait plus cher à la collectivité, parce que chaque année, on collecte 200 tonnes d'objets, on va sans doute en collecter encore plus. Sur les 200 tonnes, il y en a 150 tonnes qui ne vont pas à la déchetterie. C'est-à-dire qu'il n'y a que 50 tonnes qui vont à la déchetterie, et une tonne de déchets, je ne sais pas combien ça coûte à la Comcom et donc aux habitants à travers leurs impôts de faire évacuer ça vers un incinérateur. On avait estimé, je crois que c'était entre 15 et 20 000 euros par an d'économie pour la Comcom. Et plus on nous permet de nous développer, d'agrandir, plus on va éviter que des objets finissent à la déchetterie et donc ne pèsent sur les impôts des gens, enfin sur la collectivité, parce que la collectivité, je pense qu'elle pourrait très bien utiliser les impôts sur d'autres choses, sur du culturel, sur des choses qui n'ont pas les moyens de se financer et qui pourtant sont nécessaires sur un territoire.
Eh bien, Frédéric, merci beaucoup.
Mais c'est moi.
Alors, pour rappel, vous pouvez répondre à l'appel à souscription de court-circuit auprès de l'Arban.
Le mieux c'est d'aller sur notre site, télécharger la souscription ou passer nous voir au hangar ou à la boutique aux heures d'ouverture. Mais le plus simple pour vous, je pense que c'est d'aller sur notre site ou taper court-circuit Feltin sur internet. Ça va vous amener, vous grattez un petit peu, vous allez tomber sur la souscription, vous l'imprimez et vous envoyez ça avec un chèque à court-circuit.
à court-circuit directement.
Et on centralise.
Et peut-être que si vous tapez sur votre moteur de recherche « appel à souscription pour la boutique de court-circuit », vous tomberez directement sur la page. C'est possible. Frédéric Thomas, merci beaucoup d'être venu jusque à Radio Vassivière pour nous parler de court-circuit, qui est vraiment une association assez passionnante.
Mais merci pour votre accueil.
C'est un plaisir. Au revoir.